Nous allons ouvrir nos Bibles dans Proverbes chapitre 25, verset 2. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent sur Révélation Bible. Dieu vous bénit. Nous avons prié pour que tout se passe bien et que ce que vous allez entendre vous impressionne vos cœurs et que vous sachiez là où on en est et ce qu'on a à être et à ce qu'on a à faire. Proverbes 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Amen. On va dans, pas nous, mais le monde, la France, on va dans le mur. Mais nous, grâce à Dieu, nous avons une protection. Le Seigneur Jésus-Christ a détruit la confusion qui règne à cause des multitudes de dénominations religieuses qui prétendent toutes posséder la vérité. Nous ne prétendons pas posséder la vérité. Nous ne disons pas que nous sommes dans le mensonge ni dans l'erreur, mais nous ne possédons pas la vérité. C'est Jésus qui nous possède. Amen. C'est lui qui nous tient dans sa main et qui nous conduit dans toute la vérité. Mais nous avons encore beaucoup de choses à apprendre et nous en sommes conscients, humbles devant lui, que voilà, il met de l'ordre dans son Église. Il a rétabli déjà, premièrement, la prêtrise. Ça, c'est une chose qui est ignorée. Il a consacré des hommes, des femmes, pour être un peuple de sacrificateurs. On l'a vu, je vous l'ai enseigné, qui sont confirmés par les signes, par les prodiges, les miracles. Et mes frères et sœurs, les hommes religieux ont trop longtemps trompé le peuple. Ils ont tromperie sur tromperie. Et les fils du malin n'ont aujourd'hui que le pouvoir de séduire les insensés parce que Dieu révèle la vérité à ses enfants. Tous ces suppôts de Satan, ces fils du malin, n'ont le pouvoir aujourd'hui que de tromper et de séduire les ignorants volontaires parce qu'ils veulent bien rester dans leurs ténèbres et dans la médiocrité de leur petite religion dont ils se plaignent sans arrêt, en fait. Ces foules de vierges folles se nourrissent de fables de plus en plus, d'imaginaires, d'une fausse spiritualité qui est basée sur le bruit et les émotions. Nous le constatons chez eux, le fruit du mensonge l'emporte et le fruit du mensonge les emporte dans la tombe. C'est pas dans la lumière, c'est dans l'erreur. C'est dans l'imaginaire. Mais mes frères et sœurs, il nous suffit d'un seul attouchement du doigt d'amour de Jésus-Christ. Il nous suffit d'un seul rayon de gloire du monde, de la lumière du monde d'en haut, d'une seule parole de la bouche du Seigneur Jésus-Christ venant du fond de l'éternité, venant de son trône, du sein de l'éternité pour rendre toute cette folie insignifiante à nos yeux et pour l'effacer à jamais afin que nous puissions marcher librement dans la vérité. Quand Dieu m'a parlé au départ, je ne savais pas où ça nous emmènerait et je n'avais pas une assurance comme j'ai aujourd'hui parce que je savais peu de choses. Et Dieu nous conduit dans la connaissance de la vérité. Et comme je vous disais l'autre jour, quand on est âgé, quand on devient vieux, alors on est dans la vérité. Ça ne veut pas dire qu'avant j'étais dans le mensonge non plus. Mais on a toute une palette maintenant de faits, de choses réelles qui se sont produites et qui font que nous savons. Nous savons. Amen. Les faux prophètes, aujourd'hui, nient qu'il y ait encore des révélations, que Dieu donne encore aujourd'hui à son épouse des révélations. Eh bien, ces gens-là n'ont pas l'autorité d'administrer l'Église en son nom. Ils n'ont pas l'autorité. Parce que mes frères et sœurs, le témoignage de Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est l'esprit de prophétie. Et si Dieu ne parle plus, si Dieu ne révèle plus rien, si nous avons la totale vérité, alors c'est que nous rejetons l'esprit de révélation, de prophétie. Donc nous rejetons le témoignage de Jésus-Christ. Et il faut savoir que l'Église de Jésus-Christ a été fondée, elle a été édifiée et elle est soutenue par des révélations. Par des révélations. Et ce que Dieu a mis en ordre, en tout premier, lorsque nous avons décidé de vivre en communauté, la sur la parole de Dieu. La première chose que Dieu a mis en ordre, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est Dieu. Il n'y a pas trois personnes. Il y a un Dieu qui se manifeste en trois manières différentes, principales. En tant que Père créateur, le Fils qui est venu pour nous sauver et le Saint-Esprit par lequel il vit en nous. Mes frères et sœurs, à toutes les époques du monde où il y a eu un peuple de Dieu sur la terre, Dieu s'est révélé à l'écart des religions officielles, à l'écart des organisations religieuses humaines, et Dieu ne change pas, et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va changer la façon d'agir. Il agit toujours la même chose. Le monde a changé, la France a changé, elle a bien changé cette année, hein? Dis donc. Les pasteurs changent, les prêtres changent, ils ont annulé la parole de Dieu révélée, qui rétablit l'Église aujourd'hui, ils l'ont annulée par leurs traditions qui sont stupides, qui sont sans puissance. Mais mes frères et sœurs, ceux qui cherchent, ceux qui écoutent les chuchotements du Saint-Esprit, le Rédempteur apaise véritablement leur âme, le voile est soulevé et le Seigneur rétablit son Église et ils savent comment et où vivre. Quelle joie, mes frères et sœurs, tandis que le monde est tourmenté, tourmenté, désorienté. Tout à l'heure, Eric Ritchie me disait, il y a encore quelques mois, on disait, oui, les partisans du complot, vous êtes des malades mentaux, etc. Maintenant, même les économistes disent qu'il y a un complot et qu'on fabrique de l'argent avec la planche à billets et que tout ça, c'est un dessin malsain pour ruiner le monde, et que, n'est-ce pas, c'est ce que tu me disais? Les journaux le disent parce que maintenant, des gens comme des ministres et des gens comme ça dans la finance aussi, très plus intelligents que nous, n'est-ce pas, beaucoup plus intelligents que les chrétiens. Nous, on est bêtes. Oui, c'est vrai, on n'est pas très intelligents, mais on a l'esprit de prophétie et on sait ce qui se passe. Et quand on le dit, personne ne nous écoute. Ah, maintenant, c'est les monsieur et madame ministres, machin. Alors là, on va les écouter, c'est certain. De toute façon, ça ne changera rien du tout. Mais voilà. Un peu d'humilité. Ça serait bien qu'ils aient un peu d'humilité et qu'ils disent, oui, c'est vrai, on s'est trompé, maintenant on va se mettre à écouter les serviteurs de Dieu. Eh bien, tandis que des millions tâtonnent comme des aveugles qui cherchent la direction, tandis que la grande masse des gens est plongée dans l'incertitude et dans l'ignorance, en grande partie volontaire, eh bien, nos yeux voient et nos oreilles entendent. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. J'aime bien dire ça. Le 1er juin 1968, ce fameux Raphaël Duval a prêché l'évangile à Lausanne, 1er juin 68. Ce n'était pas son pays, il n'avait pas d'argent, il est venu par la foi. Il n'a pas demandé d'argent à gauche, à droite, j'en suis témoin, j'étais là. C'était un homme de Dieu qui prêchait l'évangile avec puissance. Il était accompagné par des signes, des miracles et des prodiges. C'était extraordinaire. Le soir même, alors que je me suis converti là dans cette salle, la maison du peuple à Lausanne, le soir même, un homme nommé Fritz Blaser, je ne sais pas s'il vit toujours, ce soir-là, il me donne une bande magnétique de T.L. Osborne. C'était pas des cassettes, c'était encore des bandes rondes. Et ces bandes rondes, ces bandes magnétiques de T.L. Osborne qu'il me donnait, elles venaient d'une maison qui se trouve à Genève, dans laquelle maintenant nous allons dormir avec Michou quand on y va. Eh bien, cette maison, c'est la maison des châtelains, parce que c'était Monsieur Châtelain, un chrétien, qui allait de convention en convention et qui enregistrait ses bandes magnétiques et qui les vendait dans le milieu chrétien. Et c'est ainsi que j'ai pu avoir le premier soir, le soir de ma conversion, des bandes magnétiques de T.L. Osborne fournies par les châtelains qui sont devenus nos amis en 2011. On les a jamais vus avant. En 2011. Et écoutez, que ça même c'est curieux. C'est cette famille, il s'appelle maintenant Alaman, parce que Daniel Châtelain, la fille de Monsieur Châtelain, s'est mariée avec un monsieur qui s'appelle Arthur Alaman. Et bien, ce monsieur et cette dame, Alaman, c'est eux qui nous ont invités pour que on puisse aller fouler le sol d'Israël, le pays du Seigneur, et marcher dans les pas de Jésus, là-bas, à Jérusalem, et le long des mers, des lacs et du Jourdain, toutes ces choses-là. C'est eux qui ont permis, ils nous ont offert le voyage. N'est-ce pas extraordinaire? En 69, donc une année après, Vikram Seth, un prophète anglais qui est décédé lui aussi, prie pour moi sous un chapiteau à Metz, alors que j'avais la gangrène au pied gauche et je suis instantanément guéri. Je perds de vue cet homme. En 73, on se retrouve, vous voyez, de 69 à 73, et il prophétise sur moi dans un petit bled qui s'appelait Saint-Saëns. Rachel, tu étais là, Michou aussi, et il n'y avait personne d'autre, il n'y avait que nous, il y avait Guy aussi qui était là. Et il prophétise sur moi, et il dit que je vais avoir un ministère international, et il dit que je vais créer des communautés. Et comme moi j'ai déjà été pas mal déçu par les milieux chrétiens et les prophéties à la noix de coco, je ne ferme même pas les yeux, je le regarde en souriant, et il ouvre les yeux lui aussi, il dit, et ainsi dit le Seigneur, parce que tu as douté, tu seras l'occasion pour le plus grand miracle sous ce chapiteau. Et la croiras-tu? Alors, je ne vous dis pas, la convention se poursuit. Cet homme avait un don extraordinaire pour les guérisons. Il y a eu des aveugles qui ont trouvé la vue, il y a eu toutes sortes de gens. Et le dernier miracle, c'était une femme, c'est le dernier jour, la dernière réunion, une femme énorme qui venait de l'église du pasteur Boudéen, avec deux petites jambes paralysées comme des chiffons derrière elle. Son mari, elle tenait son mari par le cou et lui la traînait comme ça dans l'allée dans la ligne de prière. Et on entendait chaque fois qu'il faisait un pas, on entendait les pieds de cette dame qui traînait dans le gravier sous ce chapiteau. Et là, Vikram s'est tourné vers moi et dit, Michel, c'est pour toi. Et j'ai prié et cette femme a été guérie. Elle s'est mise à sauter et à courir autour du chapiteau. Gloire à Dieu! Il me dit, et maintenant, tu crois à la prophétie que je t'ai donnée? Oui, j'ai dû croire. Je me suis humilié devant Dieu et j'ai cru. Cette prophétie a été donc confirmée par un miracle extraordinaire. En 77, 4 ans après, le Seigneur ouvre mon cœur à la compréhension de sa volonté pour créer la première communauté, selon le modèle de Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4. Michou et moi, on ouvre notre petite maison qu'on a au Perreux, et Isabelle Lemot et Dominique Boisset sont les deux premiers membres de cette communauté. Ils sont toujours là. C'était en 77. C'est vieux, hein? Nous aussi, d'ailleurs, maintenant, on est devenus vieux. On est toujours beaux, hein, Dominique? Isabelle, elle n'est pas là ce soir. Mais voilà, on est toujours beaux. Et puis, 2 ans après, en 79, nous rencontrons T.L. Osborne dans un restaurant. Et c'est là qu'il nous invite à aller aux États-Unis. Et c'est là que je suis ordonné en 1980. Et en 87, par une prophétie que je donne, je suis averti de l'existence des écrits intertestamentaires, c'est-à-dire les manuscrits de la mer morte. Vous voyez que ça n'est pas d'hier tout ça. Vous voyez le cheminement? La communauté est en train de prendre forme. On a élu domicile à Sarcelles, dans une grande maison. On a 12 pièces, ça devient trop petit. Même Richie, qui a rejoint la communauté, ne peut pas y vivre parce que c'est trop petit. Donc il habite chez une vieille grand-mère dans la rue. Et donc la communauté prend forme, les règles de la communauté sont établies, selon les Écritures, elles sont transformées en réel vécu. Et en 90, on arrive au château. 90. Dieu nous établit et maintenant il veut se manifester dans le monde au travers de nous, parce que la chose a été construite, la chose a été faite. L'Église est rétablie comme elle devait être au départ, comme elle était au départ à Jérusalem. Et alors, il nous prépare. En 97, voilà une prophétie de ma mère. Ma mère prophétisait de temps en temps, et là, elle nous prophétise que Dieu va nous donner une parole nouvelle. Et nous venions d'acheter une maison, la maison d'un curé. Et c'est dans la maison de ce curé, à l'étage, dans le grenier, que je trouve un carton rempli de bouquins de William Branham. Et c'est là que nous avons la révélation que cet homme est véritablement un prophète majeur, qu'il est le prophète pour notre époque et que son message est vraiment un message que nous devons écouter. C'est le message du prophète qui est intéressant, pas la religion qui a été fondée sur sa vie et sur ce qu'il a dit et tout ça. On ne s'intéresse pas à cette religion branhamiste. Mais lui, oui, lui, ce qu'il a dit, c'est très important. Peu de gens connaissent ce qu'il a réellement dit. Ils connaissent Ils ont lu des critiques au sujet de ce qu'il a dit, mais ils n'ont jamais vraiment réellement lu ce qu'il a dit. Bon, en 98, en juillet, c'est-à-dire une année après, Vic et Jane Ramsey nous visitent au château. Vous vous rappelez de ça, les frères et sœurs? Et là, Jane prophétise. Et voilà ce qu'elle dit. Le Seigneur Jésus vous exhorte à tenir chaque parole de la Bible pour vraie et qu'il n'y a rien à y changer. Je vais vous donner quelque chose de particulier que vous ne devez pas rejeter. C'est sur votre maison qu'une grande lumière va venir et elle va se révéler par le Saint-Esprit à cet endroit. Et des louanges à son égard vont bientôt retentir parmi vous comme vous ne l'avez jamais connu. Un ministère pour lui, pour le Seigneur, va se répandre aux quatre coins de la terre et ce ministère aura sa source dans cette maison. L'Esprit va vous secouer et vous allez éprouver les secousses que le Saint-Esprit va faire parmi vous. Vous allez être secoués et certains vont bouger, c'est-à-dire partir, mais d'autres viendront se joindre à vous. Il n'est plus temps de se préparer, c'est maintenant qu'il faut agir par sa puissance. Lisez Luc 4, 18, 19. C'était donc dans la prophétie que le Seigneur nous dit de lire Luc 4, 18, 19. Alors je vous le lis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. 2 mois après cette prophétie, le Saint-Esprit m'ouvre l'intelligence par un ministère d'ange, d'envoyé, et la doctrine du baptême à la place des morts reprend sa place dans l'Église après des siècles. C'est-à-dire que cette doctrine a été pratiquée jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu l'apostasie. Ça a été rejeté. Et là, maintenant, 2 mois après cette prophétie, le Seigneur nous avait dit au travers de cette femme, je vais vous donner quelque chose de particulier qu'il ne faudra pas rejeter. Et voilà, le Seigneur nous donne ça 2 mois après. Le 13 juin 99, Alain me baptise, c'est le premier baptême à la place des morts, on fait le baptême dans le parc, vous vous souvenez, c'était pour mon père. Ensuite, nous faisons 3000 baptêmes, et là, je suis convaincu qu'il faut que j'aille à Londres pour demander un entretien, avoir un entretien avec Vic et Jane Ramsey. J'ai besoin d'avoir leur avis au sujet de cela. Et de ne pas jouer en franc-tireur, mais d'avoir l'avis de serviteur de Dieu. J'ai aussi demandé à Frère Osborne. Mais Vic Ramsey, là, c'était important, puisque c'était elle qui avait donné la prophétie. J'arrive chez eux, ils ne parlent pas anglais, ils ne parlent pas français, moi je ne parle pas anglais. Donc le soir, ils ont invité une dame qui parle les deux langues, soi-disant, mais en fait, elle ne parle rien du tout, à part « Bonjour, comment ça va ?» Donc on ne se comprend pas, je décide de ne rien dire. On prie. Et pendant la prière, Jane me dit, je vais vous dire, là on a pris le temps de prendre le dictionnaire pour bien se traduire ce qu'elle disait, et elle me dit, je vais te dire ce que le Seigneur m'a dit avant que tu arrives chez nous. Jésus m'a dit, va oindre la porte de la chambre où Michel va dormir. Alors elle dit, moi j'avais jamais fait ça. Mais en le faisant, j'ai compris soudainement que tu étais en train de te battre aux portes du séjour des morts et que tu étais en danger, que tu devais être protégé. Et elle me donne un texte, Ésaïe 10, 27. Je ne lui ai rien dit. Ils ne savent pas que nous pratiquons le baptême à la place des morts. Elle ne le sait pas. Et elle me donne ce Ésaïe 10, verset 27, que je vous lis. Il est dit là. Ah, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est pas ça, excusez-moi. C'est un texte qui dit que Voilà, c'est ça. Et ce jour, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule et son joug de dessus son cou, et la graisse fera éclater le joug. La graisse, c'est l'huile qui fait éclater le joug qui est sur nous, sur moi. Le lendemain, une deuxième femme vient le soir pour traduire. Alors, on ressort de nouveau le dictionnaire, mais je m'aperçois que ça ne va pas être possible de leur expliquer le baptême à la place des morts avec cette dame qui ne maîtrise pas bien le français. Donc, je ne dis rien. Le troisième jour, c'est le dimanche. Et nous allons au culte. Et là, au culte, un homme noir s'approche et nous parlons. Il parle français. Et il est bouleversé de savoir que je suis le fils spirituel de T.L. Osborne, parce que lui, il s'est converti avec Osborne. Alors, il est tout content de rencontrer quelqu'un qui peut lui parler de frère Osborne, etc., etc. Et on parle. Et après le culte, nous allons dans un petit bureau du pasteur de cette église. Et puis, je parle et lui, il traduit tout à fait correctement tout ce que j'ai à dire au sujet du baptême pour les morts. Vic et James Ramsey sont tout à fait respectueux. Ils disent que c'est tout à fait plein de bon sens spirituel, mais que je dois faire attention de ne pas abandonner mon ministère pour le salut des vivants. Mon ministère pour le salut des vivants, ça s'était un petit peu arrêté parce que je m'étais occupé pendant des années de la création de la communauté et de l'évangélisation. On n'en faisait plus beaucoup. On avait des gens qui se convertissaient, mais voilà, on ne faisait pas exprès, hein, c'était des amis, des gens qui venaient, des connaissances de travail, mais on ne faisait pas vraiment d'évangélisation. Et là, il me dit, il faut faire attention de ne pas abandonner ton ministère pour le salut des vivants en passant trop de temps pour le baptême pour les morts. Et c'est là, quelques temps après, quelques semaines après, que Dieu ouvre les portes de l'Afrique. Vous voyez la chronologie, vous voyez comment les choses se passent. Le soir avant mon départ, un prophète du Québec, qui se souvient de cet homme? Comment il s'appelait? Jean-Pierre? Jean-Pierre comment? Moi j'ai marqué Gigi. Non, je ne sais pas. Comment? Vous savez le nom de famille? Non? Il avait eu un accident et le Seigneur l'avait dit, je ne te guérirai pas avant, ça se transforme en cancer, je crois, hein, son truc à la jambe, je ne te guérirai pas avant que tu n'aies été en France, j'ai quelque chose, tu dois dire quelque chose là-bas. Et il est venu chez nous, par un concours de circonstances, au travers du pasteur Forchelet que je connaissais. Puis bon, il a dormi au château et toute la nuit, il n'a fait que de prier et de recevoir des révélations de Dieu. Et le matin, avant que je parte, parce que je partais là pour aller en Afrique, avec toi, Philippe, c'est là qu'il nous a dit que c'était juste ce qu'on croyait. Je ne me rappelle plus exactement les termes, mais ça nous confirmait que c'était juste ce qu'on croyait au sujet du baptême pour les morts. Donc, vous voyez un petit peu toutes ces choses surnaturelles. On n'invente pas des choses comme ça. Et puis cet homme, il a disparu de notre vie. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Je demande à Forchelet ce qu'il est devenu. Arrivé au Burkina, au village de Kikilma, c'est la stupeur. Pourquoi? Parce que 7 ans avant mon arrivée, une prophétie disait qu'un blanc allait venir. Et aucun blanc n'était jamais allé dans ce village. On est les premiers blancs à y avoir été. On arrive là-bas. Premier soir, il y a eu 15 miracles pour confirmer la parole de Dieu. Et ça nous a confortés. J'ai su que c'était notre place, qu'il fallait qu'on fasse de l'évangélisation sur l'Afrique. C'est comme ça que l'évangélisation sur l'Afrique a commencé. C'est dans cette même mission que le fils du ministre des Finances a été guéri, sauvé d'une mort imminente, alors que nous l'avions visité à l'hôpital. Il était sans soins, c'est une horreur. Et puis Nicolas Savadogo nous emmène chez une sœur prophétesse qui s'appelle Dorcas. On arrive chez cette Dorcas. Moi, je me dis, qu'est-ce que c'est encore cette prophétesse? Il y avait le pasteur Forchelet, il y avait un architecte, il y avait Philippe, il y avait donc toi, Philippe Navez, il y avait Alain Williormeau. Il y avait Nicolas, il y avait encore un autre bonhomme, je ne sais plus qui. Et puis, et moi. Et puis cette dame, Dorcas. Et puis, bon, ça faisait vraiment bizarre, cette bonne femme qui était là. Puis elle parle fort, elle crie quand elle parle en langue et tout. Et puis tout d'un coup, après la prière, elle dit, est-ce que quelqu'un veut demander quelque chose au Seigneur? Puis tous les frères, ils se regardaient un peu gênés, parce que bon, ce n'est pas nos coutumes ici en France de dire, de faire comme ça pour des prophéties. C'est une prophétesse qui est sous contrôle des pasteurs des assemblées de Dieu là-bas. C'est pas une rigolote, hein. C'est quelqu'un qui est sous contrôle de l'Église. Et puis, bon, en voyant qu'il n'y avait rien, que personne ne disait rien, j'étais gêné pour elle, alors je me risque. Je dis, voilà, J'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais je ne sais pas comment le communiquer à mes collègues pasteurs. Je ne sais pas comment le faire. Je demanderai à Dieu qu'il me donne de la sagesse pour pouvoir le faire. Alors, elle dit, bon, on va prier. On se met à prier. Tout d'un coup, elle dit, mais bien sûr, mon enfant, que tu as de la peine à le communiquer à tes collègues pasteurs. Tu touches à ce qui est le plus tabou. Tu es comme Ézéchiel qui descend dans la vallée des ossements des morts. Tu touches aux morts. Bien sûr qu'ils ne comprennent pas. Mais voici, parce que tu as demandé la sagesse, non seulement je te donnerai la sagesse, mais je te donnerai les moyens de communiquer cette croyance. C'est pas extraordinaire? Tu étais là, fille. Tu peux témoigner que c'est vrai. On pleurait comme des madeleines, tous les deux. Les autres, ils savaient pas ce qui se passait. Ils comprenaient rien. Personne n'était au courant de notre histoire. Et c'est vrai, on peut témoigner qu'on a eu les moyens, on a pu écrire des livres, on a pu... Tout ça, ça nous est tombé dessus comme ça, et on a pu donc propager cette nouvelle aussi au sujet avec Richie qui a ouvert ce site internet qui va partout dans le monde. Et c'est magnifique. Dieu nous a donné les moyens de faire connaître ces choses que Dieu qui nous avait données. Ça ne fait aucun doute dans mon âme, mes frères et sœurs, Dieu me conduit. Depuis le début, depuis ce soir où j'ai rencontré ce gitan Raphaël Duval, jusqu'à maintenant, là, Dieu me conduit. Et si vous marchez avec moi, vous serez au bénéfice de ces paroles prophétiques. Vous serez au bénéfice de ces paroles prophétiques. Voilà les textes prophétiques que Jane Ramsey m'a donnés en précisant que ce n'était pas que pour moi, mais que c'était pour tous ceux qui me suivraient, qui marcheraient avec moi. Le premier verset, c'est Ésaïe 54, 23. Je vous le lis. Non, pas 23, 2 et 3, pardon. Ésaïe 54, 2 et 3. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Frères et sœurs, le château sanctuaire, c'est la tente, c'est-à-dire c'est le temple. Et nous devons élargir nos pieux, c'est-à-dire il faut que ça soit plus grand. Et nous le faisons justement par nos missions outre-mer, mais nous le faisons aussi par Révélation Bible qui atteint des dizaines de milliers de personnes là où on ne pourrait jamais aller, nous-mêmes en chair et en os. Chaque semaine, on en atteint des milliers. Et par les 5 livres que j'ai écrits depuis, on élargit nos tentes et on continue. Amen. Notre ministère a une part importante dans la rédemption des vivants. Jésus a tout accompli pour le rachat, mais si personne ne va leur dire, comment sauront-ils? Donc nous avons notre part, c'est d'être des témoins. Mais aussi et surtout pour les morts, nous avons notre part. Nous avons fait plus de baptêmes pour les morts que pour les vivants à l'heure actuelle. Vous vous rendez compte? Depuis ce 13 juin 1999, nous avons fait plus de 70 millions de baptêmes pour les morts, provenant de toutes sortes de sources. Les gens nous ont envoyé des noms, nous avons pu avoir des listes. C'est absolument extraordinaire ce que le Seigneur a fait au travers de nous. Et je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui se donnent dans ce ministère fastidieux, parce que c'est vrai que c'est long, c'est vrai que c'est long, long, long. Et merci particulièrement à Dominique qui passe 3 heures par jour à répertorier tout cela sur le logiciel que Eric Jacques a créé. Et c'est magnifique, c'est un travail. Et Dieu te récompensera. Tu vas voir, Dominique, plus que moi. Parce que c'est un travail extraordinaire que tu fais là, que moi, je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire tout. Et c'est magnifique. Tu marches avec moi, ben le Seigneur te bénira. Ainsi, les genoux fléchissent sur la terre, mais aussi sous la terre. Amen. Aussi sous la terre, selon la parole de Dieu. Des milliers de gens ont été sauvés sur la terre par notre ministère d'évangélisation. Plusieurs ici en sont témoins. Nicolas Savadogo peut en témoigner. Tous les pasteurs chez qui nous avons passé, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines, ils peuvent en témoigner, avec tous les miracles qui ont eu lieu aussi. Et nous avons construit beaucoup d'églises. Gloire à Dieu. Le deuxième texte, c'est Ésaïe 55, 11, 13. Ça vous embête pas trop que je vous raconte tout ça? Hein, ça vous rappelle des souvenirs aussi à vous les anciens. Ésaïe 55, 11, 13. Voilà le deuxième texte donné par prophétie que nous devions lire et méditer. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu des épines s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Alors il est question là de mains, de bouche et d'action. Nos mains font ce que Dieu nous a dit de faire. Nos cœurs font ce que Dieu veut. Nos bouches disent ce que Dieu veut et nos actions accomplissent sa volonté. Il est aussi question de ronces. Les ronces, mes frères et sœurs, sont les blessures qu'on nous inflige. Pas les choses bébêtes qui peuvent arriver à tout le monde, mais les blessures que nous recevons de la part de nos frères et sœurs qui sont dans l'ignorance. Et ça, ce sont des blessures, mais bon, on passe par-dessus, puisqu'on était averti qu'on les aurait. Le quatrième texte, c'est Jérémie, il y aurait beaucoup à dire aussi sur tout cela, mais je passe vite. Jérémie 19, verset 10, je lis. « Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui sont allés avec toi. » Qu'est-ce que c'est ces vases? Eh bien, mes frères et sœurs, ces vases que nous brisons devant les... C'est des vases que nous brisons devant les yeux des gens qui nous visitent, mais qui repartent dans leurs ténèbres, qui repartent dans leur incrédulité, qui repartent dans leur train-train, dans leur machin. C'est leur vase d'illusion tempérée. C'est des vases qui contiennent leur eau tiède. Voici, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est des vases qui contiennent de l'eau tiède. Et nous ne sommes pas de ceux qui ont des vases pleins d'une eau, d'une parole tiède. Mais ce que nous sommes se trouve dans 1 Pierre 2,9. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes cette lumière qui brille dans les ténèbres. 2 Corinthiens 4, 5, 7 dit que nous avons à faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. Pas simplement des doctrines, parce que c'est vrai que nous remettons les doctrines en place. Mais ce n'est pas que les doctrines, c'est aussi la connaissance de la puissance, de la gloire de Dieu que nous manifestons. Et nous portons notre trésor, c'est toujours dans 2 Corinthiens, nous portons nos trésors dans des vases de terre. Ces vases de terre, c'est nos corps. Eux, leur vase, c'est aussi leur corps. Et en eux, il y a de l'eau tiède et on brise ça, c'est brisé. C'est terminé pour eux. Ils n'en veulent pas, c'est terminé pour eux. C'est terrible, n'est-ce pas? Ils peuvent encore se repentir tant qu'ils sont vivants, mais ils n'entendront jamais rien d'autre qui pourra les délivrer de leur routine et de leur confusion et de leur tiédeur et tout ça. Ils n'entendront jamais rien d'autre parce que c'est ça qu'ils doivent entendre. C'est ce que nous avons qu'ils doivent entendre. Ils n'en veulent pas, ben tant pis. Eh bien, nous portons dans des vases de terre la parole vivante de Dieu. Et c'est dans notre corps, afin que, comme dit la Bible, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est-à-dire que c'est vrai que nos vases sont faibles, n'ont pas une apparence extraordinaire, mais c'est quand même des vases que Dieu utilise. Amen. Amen. Alors voilà ces textes que Dieu nous a donné à notre sœur Jane Ramsey pour nous. Notre évangile, mes frères et sœurs, est encore voilé pour certains. C'est pas un nouvel évangile. Mais c'est l'évangile que Dieu nous a confié, un évangile qui est rétabli, qui est bien plus grand que celui qu'enseignent tous les collègues partout dans ces églises. C'est bien ce qu'ils disent, mais ça n'est pas complet. Nous non plus, mais nous avons reçu davantage. Et ayant beaucoup reçu, nous serons beaucoup jugés aussi. C'est pourquoi nous devons faire attention avec ce que nous avons reçu, puis attention de ce que nous faisons avec. Les vivants ne l'ont pas encore reçu, ne l'ont pas encore cru. Les morts le reçoivent petit à petit jusqu'à ce que le dernier captif sorte du séjour des morts pour aller dans les hauteurs comme les premiers sont partis avec Jésus selon Éphésiens chapitre 4. Il a emmené avec lui des captifs dans les hauteurs. Alors, notre joie est grande, mais il y a un mais. Il y a un mais. Nous devons être spirituels. Si nous ne sommes pas spirituels, le joug qui est sur nous n'éclatera pas. C'est ce que Jane disait. Dans Ésaïe 10, 27, il y a un joug, et c'est la graisse, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit, c'est notre spiritualité qui va faire éclater ce joug. Tant que le joug de la chair, de nos exigences bébêtes, de notre insoumission à l'Église, de notre insoumission tout ça fait qu'on ne peut pas marcher la tête haute. Mes frères et sœurs, le texte que nous avait donné pour nous souligner ça, c'était Lévitique chapitre 26 et verset 13. 26, 13. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Je vous ai tiré de la servitude, j'ai brisé les liens de votre joug et je vous ferai marcher la tête levée. C'est vrai. Dieu a répondu de son esprit sur nous. Mais faisons attention de ne pas vivre ces choses par habitude et de nous en lasser. Parce que ce joug pourrait revenir sur nos épaules. Ça serait vraiment très grave. C'est arrivé déjà dans l'Église, des choses comme ça. Il ne faut pas que ça nous arrive à nous. C'était bon pour nous de porter ce joug de notre jeunesse. Quel joug ? Celui de Babylone, celui du roi de Babylone, de la religion, des autorités religieuses. On trouve ça dans Jérémie 28, 2. Il y a un joug qui est posé par Babylone, c'est-à-dire tous ces chefs religieux, tous ces gens qui nous méprisent, tous ces gens qui sont dans leur truc et qui disent que nous sommes anti-bibliques. C'était bon pour nous qu'on porte ce joug-là dans notre jeunesse. Jérémie chapitre 3, verset 27. Mais ayant mûri, ce joug n'est plus bon pour nous maintenant. Nous n'avons plus besoin de ce joug de religieux. Nous avons besoin du joug de Jésus. Nous ne voulons que le joug de Jésus-Christ. Nous acceptons le joug de Jésus-Christ sur notre vie, le joug de notre soumission à Jésus-Christ. Et cette soumission que nous acceptons, ce joug, le fait de plier devant Jésus-Christ, de plier à côté de Jésus-Christ pour porter avec lui, pour tirer avec lui, eh bien nous met dans une obligation. Notre obligation de fidélité à Jésus-Christ nous lie à son Église rétablie selon la parole. Mes frères et sœurs, nous sommes dans l'obligation vis-à-vis de cette Église. Le 30 janvier 2006, Suzanne de Saria, une autre prophétesse, a prophétisé sur moi. Vous vous rappelez de ça? Voilà ce qu'elle dit. La prophétie, elle m'appelle homme, elle m'appelle fils de l'homme. Et dit, tiens-toi debout, ne t'occupe pas des choses de la terre, car quand le ciel s'ouvre, cela s'ouvre aussi sur la terre. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas d'ennemis, mais que ceux qui chercheront à t'humilier ne pourront pas te salir. Publie le message des quatre êtres vivants. Mais qu'est-ce qu'elle sait de ça? Qu'est-ce qu'elle sait de ça? Elle ne parle même pas français, elle n'a jamais... rien. Le ciel est ouvert pour toi, mais en dessous de toi s'ouvre le monde d'Iram. Il y a deux Iram dans la Bible. Deux Iram. Le premier Iram, d'abord, premièrement, les deux sont des étrangers. Le premier, c'est un roi. Et ça représente quelque chose d'étranger. Et c'est un roi qui a participé sur la demande de Salomon à la construction du temple. On trouve ça dans 1 Roi 5.1, Iram. Ce n'est pas un juif. Et l'autre Iram, lui, il était à moitié juif. Sa mère, c'était une veuve juive, et son père, qui était décédé, était un Tyrien. Et c'est lui qui est venu aussi pour aider à la construction du temple, mais en tant qu'ouvrier, en tant qu'artisan. Cet Iram-là, ce juif non-juif, a construit en particulier les deux colonnes qui sont à l'entrée du temple. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Elles avaient des noms, ces colonnes. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Celle de droite se nommait Jacquin et celle de gauche s'appelait Boaz. Ce sont deux étrangers. Il y en a un qui est roi et l'autre qui est juif et non-juif. Alors, qu'est-ce que ce monde d'Iram qui s'ouvre sous mes pas? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça, c'est la révélation que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Il y a pour le moment sur cette terre deux peuples qui n'en feront bientôt qu'un. C'est le peuple juif et le peuple chrétien. Il y a deux églises dans le peuple chrétien, celle de Jérusalem et celle des nations. Il y a deux églises dans les nations, l'église apostate et l'église rétablie. Jésus règne au ciel, sur la terre, sous la terre, mais il n'y a pas que Jésus, mes frères et sœurs. Écoutez bien ce que je vais vous dire. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Faites bien attention. Il n'y a pas que Jésus, il y a aussi son frère cadet, qui s'appelait Jacques. Écoutez bien. Boaz est... dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1, 5, c'est lui qui a épousé Ruth. Boaz était un juif, Ruth n'était pas une juive. C'était une moabite, une étrangère. Vous trouvez ça dans Ruth 4, 13. Une arrière-grand-mère donc, de Jésus était une non-juive. Donc il y a juif et non-juif. Boaz est le nom de la colonne de gauche qui représente Jésus, avec une descendance juive et non-juive. Et la colonne de droite se nommait Jacquin. Qu'est-ce qu'elle représente? Eh bien, parmi les Jacques qu'on trouve dans la Bible, il y en avait un qui était son frère cadet. Vous regarderez ça. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter l'évangile de Thomas pendant que je parle? Il y en avait un qui était son frère cadet. Vous trouvez ça dans Matthieu 13, 55, dans Marc 6, 3, dans Galates 1, 19. Merci Franck. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui est devenu le chef de l'église de Jérusalem. Ça n'a pas été Pierre. On nous dit, l'église apostate nous dit que Pierre est le successeur des apôtres. Mais Pierre n'était pas le chef de l'église de Jérusalem, c'était Jacques. Acte 12, 17, Acte 15, 13, Acte 21, 18, Galates 1, 19, Galates 2, 9 et 12. Le monde d'Iram qui s'ouvre sous mes pas, c'est le monde de la réunion, de l'unification, de l'unité du peuple juif et de l'Église rétablie. Quand nous avançons en obéissant aux révélations données en cette fin des temps, quand nous avançons en obéissance, nous avançons vers le point où l'Église sera une avec l'Église de Jacques, c'est-à-dire avec l'Église de Jérusalem et le monde juif. Vous imaginez? Est-ce que vous voyez la portée prophétique de la chose? Ce que je vous dis là, ça ne va pas être pris au sérieux par beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter sur Révélation Bible. C'est pas trop grave, dans 15 jours, ils auront certainement oublié, ou alors ils ne reviendront plus sur le site en disant qu'ils ont perdu la raison cette fois. Mais nous savons que nous avons une part importante dans ce rétablissement. Cela se révèle dans l'évangile de Thomas que Dieu nous a confié. Regardez ce que j'ai écrit, c'était dans Thomas 12, le logion 12, je vous lis le logion, c'est Jésus qui parle. Les disciples dirent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras, qui se fera grand sur nous ?» Jésus leur dit, « Au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le juste, ce qui est du ciel et de la terre lui revient. » Ah, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter là, je vais vous lire le commentaire. Vous voulez que je vous lise le commentaire? Voilà le commentaire que je donnais. C'était il y a à peu près 3-4 ans maintenant, c'est le Jean 12. J'ai mis 4 ans pour écrire ce bouquin, donc c'était il y a 3-4 ans. Voilà ce que j'écrivais. Le nom de Jacques est en fait Jacob, qui est devenu Israël. Il y avait deux garçons nommés Jacques dans l'équipe des 12 apôtres de Jésus. Premièrement, Jacques, le majeur, fils de Zébédée et frère aîné de Jean. Ses deux frères étaient surnommés Boanerges, fils du tonnerre. Matthieu 10, 2, Acte 1, 13, Matthieu 4, 21, Matthieu 27, 56, Marc 15, 40. Deuxièmement, il y avait Jacques, fils d'Alphée, Matthieu 10, 3. Et il y avait aussi un autre Jacques, je crois que c'était le père de Jude, l'apôtre Jude s'appelait Jacques. Enfin voilà, c'est le père, on ne va pas rentrer toute la famille, les cousins, tout ça. Il y avait encore celui-là. Et puis il y avait Jacques, le mineur ou le petit, qui était le fils de Clopas et de Marie. Marc 15, 40, Jean 19, 25. Il était le frère de Jude et de José. Matthieu 27, 56. Il était originaire de Nazareth, on l'appelait le frère du Seigneur. Marc 6, 3, Galates 1, 19. Il n'a pas été parmi les 12, mais il a vu Jésus ressuscité. 1 Corinthiens 15, 7. L'épître de Jacques que nous avons dans la Bible et sans doute de lui. C'est ce troisième Jacques qui avait un rôle important dans la communauté de Jérusalem. Cette communauté était l'Église telle que Jésus la voulait et non telle qu'elle est devenue dans les nations. Pourquoi Jésus, qui avait remis les clés à Pierre, dit de s'en remettre à Jacques? Il tient là un langage caché pour les non-initiés. Il veut dire, au point où vous en saurez de l'histoire de l'Église, c'est à Israël que vous irez. C'est-à-dire au modèle parfait que je vous ai donné de ce que doit être mon Église. Mon Église cessera d'être pure quand elle franchira le seuil d'Israël, elle deviendra synagogue, c'est-à-dire assemblée, plutôt que communauté de vie. Le Jacob de l'ancienne alliance était le début d'Israël. C'est aussi un Jacob, qui doit être le début de mon Église, celle de la nouvelle alliance. Cela signifie aussi que Jésus savait que quelqu'un d'autre, que les 12, chargés de conduire l'Église des nations, viendraient. Paul a été cet homme. C'est pourquoi Jésus dit, au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le juste, ce qui est du ciel et de la terre lui revient. Paul, en étant envoyé par Jésus aux gens des nations, n'en était pas au même point que les 12 apôtres juifs en Israël. Ce que Paul a fait était parfait pour ce qui est des nations. Mais il n'empêche que l'Église des nations n'a pas été longtemps fidèle en amour fraternel, Apocalypse 2, 4. Ce qui l'a conduit à cesser assez vite de vivre la vie communautaire comme à Jérusalem. Jacques était une colonne majeure dans l'Église communautaire de Jérusalem, Galates 2, 9. C'est lui qui signale sa décision d'ouvrir les portes aux non-juifs sans heurter les juifs, Actes 15, 13, Galates 2, 12. C'est lui qui fait la démarche de conciliation vis-à-vis de Paul, acte 21, 18. Ce qui est du ciel et de la terre lui revient. Cela signifie que l'Église, telle qu'elle est voulue par Dieu dans le ciel, revient à Jacques, le juste, frère du Seigneur sur la terre. Ça signifie que Jésus doit être obéi. Et que son frère Jacques doit aussi être obéi. On lui doit obéissance. Ce qui est du ciel et de la terre lui revient. Ça veut dire, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ça veut dire que vous devez suivre les deux colonnes, Jésus et Jacques. Vous devez suivre la colonne de feu et de fumée. Vous devez suivre Jésus et Jacques. Vous ne pouvez pas prétendre suivre Jésus si vous ne faites pas acte de soumission à son Église qui est maintenant rétablie. Il faut que vous y pensiez, il faut que vous priez sur ces choses, et le Saint-Esprit vous révélera si ces choses sont vraies. Le Saint-Esprit a plus de puissance que le diable n'en a. Il peut vous conduire dans toute la vérité. C'est vrai que le diable peut vous conduire dans l'erreur, dans le mensonge, mais ça ne tient jamais longtemps. Quand c'est le Saint-Esprit qui conduit, c'est pour l'éternité. Soyez remplis du Saint-Esprit, comme je vous parlais l'autre jour, comme je vous disais l'autre jour. Soyez des gens spirituels. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il faut que vous soyez des gens spirituels. Les réflexes doivent être spirituels. Quand on apprend à conduire une voiture, on sait conduire, tout de suite. Moi, je me rappelle, j'étais dans une grande rue, c'était au Perreux. La voiture était parquée devant l'auto-école, là. Il m'a mis au volant. Il m'a rien expliqué. Il me dit, t'as déjà vu quelqu'un mettre une clé de contact? Je dis, oui, mais la clé de contact. J'ai mis la clé de contact. Et puis, il m'a fait jouer les pieds. Il m'a dit, ça, tu vois, tu fais comme ça, tu lèves l'autre. Là. Vas-y. Oh! Mais tu n'attends. Oh! Tu n'attends. Oh! Et c'était parti. Et je roulais dans cette circulation de fou. Je savais conduire. Mais on m'a donné le permis seulement quand j'avais les réflexes. Quand j'étais plus obligé de réfléchir. Mais quand ça devenait un réflexe. Vous comprenez mes frères et sœurs? Maintenant, je ne suis plus comme le premier jour à regarder tout. Et je paniquais complètement, j'avais les mains moites. Si le volant avait été en assis, ça aurait été rouillé dès la première heure. Mes frères et sœurs, maintenant, vous devez vraiment avoir les réflexes spirituels, pas les réflexes de la chair. Si vous êtes encore là, c'est bien grave. Il faut que vous vous mettiez sur vos genoux, que vous priez, que vous jeûniez s'il faut, mais que vous alliez trouver la face de Dieu et que vous disiez, Seigneur, moi je veux marcher dans cette... c'est ça que Dieu nous a donné, c'est ça que tu nous as donné, ben, je veux marcher dedans, je veux y aller, je vais le faire, je ne comprends pas tout, je ne sais pas tout. Et, mais mes frères et sœurs, un pas à la fois. Il n'y a pas besoin, quand on roule, tiens, pour reprendre la conduite, quand on roule la nuit, vos phares, ils ne vous montrent pas la route jusqu'à la maison. C'est juste quelques mètres, c'est quoi? 10 mètres, 20 mètres devant nous, c'est combien la route? Eh bien, c'est la même chose. Vous n'avez pas une vue d'ensemble, mais vous avez quand même suffisamment de choses pour pouvoir avancer. Alors, de grâce, soyez spirituels. Soyez des gens spirituels, avec des réflexes spirituels. Cultivez, à force d'obéissance, à force de soumission, à force de bonne volonté, ça va devenir des réflexes, ça va rouler tout seul après. Mais il faut vous donner la peine de faire ça. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester au bord du chemin, ça va vous paraître de plus en plus difficile, de plus en plus casse-pied, de plus en plus bizarre, de plus en plus bébête, de plus en plus... tout ce que vous voulez. Mais si vous ouvrez les yeux, les oreilles, le cœur, et que vous marchez selon ces choses, eh bien vous allez voir, ça va aller tout seul. Et les difficultés que vous aurez, eh bien, vous passerez dessus rapidement. Rapidement. C'est toujours les difficultés, c'est vrai qu'on les sent passer, mais on passe quand même. L'autre jour, notre frère Francis, il était en train d'élaguer, et puis il m'a dit, ben, c'est pas des grosses branches qui m'ont fait du mal, c'est des petites ronces. Les petites ronces, mais n'empêche qu'on les sent, hein, les petites ronces qui nous griffent. C'est pas les grosses, c'est les petites. Et faites attention aux petits détails de la vie qui vous blessent et qui vous font que vous êtes fatigué, vous êtes lassé, vous avez ras-le-bol, vous êtes gavé. Non, faites attention, soyez des gens spirituels. Pensez comme Jésus pense, marchez comme Jésus marche, faites la volonté de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour cette prédication. Aide mes frères et sœurs, je sais que beaucoup sur Internet ne vont pas comprendre grand-chose, mais bon, ceux qui ont l'habitude comprendront, que Dieu les bénisse. Merci Seigneur Jésus. Amen.